À quoi sert la prison ? À surveiller et punir, pour paraphraser Michel Foucault, à protéger la société, à réinsérer des délinquants ?
En fait, on peut retenir deux idées principales. La première, c'est que la prison matérialise le pouvoir. Elle incarcère, elle retient les individus dans ses murs, elle organise leur vie, leur emploi du temps, leurs activités. Deuxièmement, la prison sépare. Elle sépare les individus de leur environnement, de leur famille, elle les désocialise. On peut parler aussi d'une désaffiliation. Et cette désaffiliation fait écho à des pratiques précoloniales, notamment à celle du bannissement ou de la mise en esclavage. Cette expression est très bien exprimée dans les intitulés de la prison qu'on entend en Côte d'Ivoire. Par exemple, les gens disent « la prison, c'est le noir » pour signifier cette forme d'anéantissement de soi. On dit aussi en Ani « la prison, on l'appelle Bissoua ». Bissoua, ça veut dire « la maison des déchets ». Donc la prison, pour Michel Foucault, dans « Surveiller et punir », avec l'avènement de la peine de la prison, on ne juge pas simplement une infraction, on produit des catégories, on qualifie l'auteur d'une infraction. En fait, la prison produit des délinquants. Elle produit des délinquants et elle marque les individus plutôt qu'elle ne les resocialise.
D'accord. Et du coup, tu aurais d'autres exemples encore ?
Oui. Marcel Blewé-Angora, qui est médecin à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, au centre de traitement antituberculeux, il rapporte, dans ce que je te propose d'écouter maintenant, l'expérience de rencontrer des détenus hors de la prison, des détenus qui refusent la qualification et les stigmates de la prison et qui font beaucoup d'efforts pour ne plus le porter. On l'écoute.
Okay. J'ai vu des personnalités. J'ai eu la chance de plus de 4 jours de faire ici, de voir pratiquement les politiciens, les opérateurs économiques, les fonctionnaires de en haut, comme disait l'autre. Mais ceux-là, ils nous fuient pratiquement. Une fois qu'on la marque, on sent la prison. On n'est pas des gens présentables. Quand bien même, j'ai été ici, mais une fois dehors, non. Nous éviter est la chose la plus importante pour eux. Quand ils ont reconnu, c'est vous faire un signe de la tête. Vous vous dites, tenez-vous loin de moi. Vous me rappelez beaucoup de souvenirs ou quoi, je ne sais pas. Mais voilà ce que nous vivons.
Mais alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce témoignage ?
Écoute, clairement, on voit bien ici que la prison désinsère plutôt qu'elle ne réinsère. Et d'ailleurs, les détenus sont inégaux face à cette expérience du stigmate. Certains, on le voit, arrivent à s'en sortir. La plupart sont un peu confinés dans cette identité. En fait, on voit que la prison est l'une des institutions qui est mise au service de la gestion des espaces et des populations. Alors, cette affirmation, on peut quand même un peu la relativiser. Par exemple, regarde, les taux d'incarcération aux USA. Mm-hmm. 655 000 détenus pour 100 000 habitants. Mm-hmm. Là, on parle souvent d'un contexte présentant une forme d'industrialisation carcérale. Si tu compares avec le Burkina, 41 détenus pour 100 000 habitants, c'est finalement pas beaucoup. En fait, la prison est une institution parmi d'autres au service de la gestion de la population, avec la police, la justice ou la santé publique.
D'accord. Donc, bon, tu as mentionné des taux d'incarcération, mais si je comprends bien, tu nous invites à aller plus loin, à réfléchir un petit peu aussi à qui on enferme, non ?
Oui, c'est intéressant, évidemment, de se poser la question de savoir quels sont les délits de ceux qu'on enferme. On peut identifier plusieurs formes de délits, des petits délits comme vol de téléphone, même vol d'eau, vol de pagne. On voit également des crimes de sang, bien sûr, des crimes économiques ou des personnes qui sont accusées pour des raisons politiques. Plus spécifiquement sur le continent africain, on voit aussi, on peut rencontrer en prison des personnes accusées de sorcellerie ou bien accusées d'avoir tué une personne qu'ils supposent être leur sorcier. Au Burkina Faso, on peut voir aussi des familles entières incarcérées pour des raisons d'excision. Il faut savoir qu'en Burkina, l'excision est criminalisée. Donc on peut rencontrer des familles mises sous les verrous pour ces raisons-là, avec des peines qui sont relatives à leur implication dans la production de l'excision. Les peines peuvent aller de 4 mois à 6 mois, et les mères sont souvent moins punies que les tantes ou que les belles-mères. Et ça peut aller jusqu'à 2 voire 4 ans pour l'exciseuse, surtout si elle a renouvelé à plusieurs reprises cette pratique alors qu'elle avait été condamnée auparavant. Mais l'administration de la peine n'est pas systématique. Toutes les familles qui pratiquent l'excision ne se retrouvent pas en prison. On voit aussi, bien sûr, des migrants qui sont incarcérés. Un exemple, en Côte d'Ivoire, il y a de nombreux Burkinabés qui sont incarcérés dans les prisons ivoiriennes. On enferme également les homosexuels, mais attention, pas directement pour cause d'homosexualité, plutôt pour atteinte à la pudeur, c'est le cas au Sénégal ou bien en Côte d'Ivoire. Sur l'ensemble, en fait, du continent, on peut considérer qu'on enferme assez peu et plutôt mal. En fait, Michel Foucault nous invite à considérer la relativité des sanctions. Il importe en effet de considérer ce que l'on codifie en infraction ou les sanctions prévues par la loi en fonction d'une infraction donnée. Et en miroir, il faut aussi réfléchir sur ce que l'on autorise et ce que l'on légalise ou bien sur ce que l'on tolère dans la société.
D'accord. Alors, pour être sûr de bien comprendre, si je prends un exemple à Yaoundé, dans certains quartiers, il y a des dealers de cannabis. Finalement, parfois, la police tolère. À certains moments, elle négocie, puis à d'autres moments, elle va réprimer. Elle va les placer d'abord dans une cellule d'un commissariat, et puis finalement, elle va placer ces dealers, enfin les transférer au parquet, et ils vont éventuellement se retrouver en prison, y ressortir, être tolérés, etc. Et puis, je pourrais aussi peut-être mentionner le fait que, par rapport à cette idée de tolérance, c'est que beaucoup d'habitants de Yaoundé ont finalement le sentiment qu'on tolère les détournements, la corruption des grands entrepreneurs, de hauts fonctionnaires, bien plus que les délits dans les sous-quartiers.
Oui, en fait, cet équilibre entre tolérance et punition, l'objectif, c'est simplement de maintenir l'ordre. Alors, pour maintenir l'ordre, on fait quoi ? On autorise des transgressions ou, au contraire, on va les réprimer. Une série de pratiques peut être criminalisée, soit parce que la loi l'inscrit dans les textes, soit elle peut être aussi tolérée parce que la loi ne l'inscrit pas ou bien simplement parce qu'on le tolère. C'est inscrit dans la loi, mais on le laisse faire.
Et dans cette idée, qu'est-ce que tu peux nous dire aussi du continuum carcéral, du lien entre quartiers, certains quartiers et la prison ?
Oui, on observe en fait dans certains quartiers un exercice particulier de la surveillance et de la punition. On peut punir certaines catégories de population, éventuellement d'ailleurs les plus démunies, mais ça ne veut pas dire pour autant que les quartiers visés sont par essence criminogènes ou que les individus sont de naissance des bandinés. En fait, pas du tout.
Mais alors, tout à l'heure, tu parlais de la Côte d'Ivoire. Tu pourrais aussi nous donner un exemple là, dans le contexte ivoirien ?
Oui, absolument. Regarde cette photo de Koumassi Campement. Mm-hmm. Koumassi Campement, c'est un sous-quartier de la commune de Koumassi, qui est une des communes d'Abidjan. Dans ce quartier, l'activité des individus est largement informelle. Il n'y a pas de réseau d'eau, il n'y a pas non plus d'assainissement, il n'y a pas d'école, pas de centre de santé. La seule présence tangible de l'État, c'est ce commissariat que tu vois sur la photo. Et cette photo exprime bien la présence très forte de la police et donc du contrôle des populations par l'État, en fait. Alors, les jeunes qui vivent dans ce quartier, ils sont engagés largement dans des activités informelles. Et ces activités informelles, elles sont régies par la culture du ghetto et par des relations de clientèle qui sont établies entre des cadets sociaux, des petits jeunes, des gens qui sont au service de personnes plus assises, qui peuvent être des aînés sociaux ou des gens puissants qu'on appelle des vieux pères. Et c'est l'articulation entre ces cadets sociaux et ces aînés sociaux, entre vieux pères et bons petits, qui fait tourner l'économie informelle dans la société et dans cet espace-là. Et c'est ça qui caractérise, en fait, qui caractérise la vie du ghetto. Alors, ce qui est intéressant de retenir, c'est que cette vie du ghetto qu'on voit se développer dans ces espaces informels, eh bien, on le retrouve dans la prison. Cette organisation est en fait au cœur du gouvernement informel de la prison. On retrouve des vieux pères et des bons petits, et c'est ça qui organise la relation entre les détenus puissants et les autres qui sont moins puissants. Cette culture du ghetto, elle informe la vie de la prison. En retour, la prison est également une forme de passage obligé dans des carrières délinquantes. Comme le disent d'ailleurs souvent les détenus de la prison, à Abidjan, la Maca, c'est l'école de formation.
Mais on ne peut pas parler de gang, parfois ?
Alors, on peut parler de gang, si on veut, en Côte d'Ivoire. Par exemple, on désigne les gangs qui gèrent la prison à Abidjan, la Camorra. Mais c'est moins présent que dans d'autres contextes, et notamment en Afrique du Sud. Regarde ce livre de Johnny Steinberg. C'est un politiste et un écrivain qui décrit très bien le parcours des détenus dans les prisons sud-africaines. Son livre s'appelle « The Numbers ». Il s'appelle comme ça parce qu'en Afrique du Sud, dans les prisons, les gangs sont gérés, sont des gestionnaires des prisons et ils ont des noms qui réfèrent à des nombres. On parle des 26, des 29. Chaque gang a un rôle spécifique dans la prison et les détenus à leur entrée sont obligés d'adopter un gang ou de se laisser entrer dans un gang dans le cadre d'une relation de clientèle avec un chef de cellule qui est lui-même inscrit dans un gang. Cette relation de clientèle, elle permet l'accès à des ressources et à une protection de la part du gang vis-à-vis du détenu, mais elle impose impose aussi pour le détenu le fait de, d'accepter de rendre des services qui peuvent être, par exemple, faire la vaisselle, faire à manger, mais aussi, bien souvent, d'accepter d'occuper un rôle de wifi, c'est-à-dire de femme symbolique, et donc d'accepter aussi des relations sexuelles non désirées. Ces circulations importantes de culture, de valeurs, sont soutenues dans la prison par un turnover assez fréquent, des gens qui rentrent et qui sortent de la prison. Et donc, il y a vraiment un lien, un continuum entre les quartiers et la prison. Si bien que les manières de faire en prison et dans les ghettos, qui s'inscrivent sous une forme de continuum, elles relèvent en fait d'un ordinaire, aussi bien pour les familles que pour les détenus.
Alors, tu parles de turnover, mais en fait, finalement, tu nous as démontré des formes de routinisation de la prison, donc c'est un échec.
Oui, on peut dire ça. Au fil des siècles, de pays au gré des pays ou de prison à prison, on entend maintes critiques sur cet échec de la prison. Soit parce qu'on met en avant le fait que le taux de criminalité ne baisse pas malgré la présence des prisons, soit parce qu'il y a de la récidive, soit parce que, simplement, comme on l'a vu tout à l'heure, la prison est l'école du crime. Et je ne te parle pas des violences de l'incarcération, aussi bien exercées envers les détenus que leur famille, ou bien les inégalités face à l'incarcération que rencontrent les individus. Toutefois, si cette prison marque, si elle stigmatise et elle catégorise, comme nous l'explique Michel Foucault, pour lui, il n'y a pas lieu pour l'instant de s'arrêter à l'échec de la prison. En fait, l'échec est consubstantiel du projet de la prison. Il fait partie de la prison dès son initialisation. Il ne s'agit donc pas simplement de réfléchir à la question de comment améliorer les conditions de vie dans la prison, mais plutôt de se poser la question de quelles sont les logiques et les fonctions sociales et politiques de la prison dans une société donnée. Et ça, en lien avec le travail d'autres institutions que peuvent être la santé publique, la police, la justice. En fait, les questions que nous aide à poser Michel Foucault, c'est de savoir quel est l'ordre social qui sous-tend l'institution. Quels sont les indésirables qu'on va mettre en détention préventive et qu'on va finalement incarcérer? Comment définit-on dans une société donnée ce qu'est un délinquant? Pourquoi décide-t-on de condamner une personne au nom de tel délit et une autre de ne pas la condamner? Toutes ces questions posées par Foucault nous aident à penser de manière universelle le sens profond de ce qu'est la prison.